Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins arpentent tous les jours les trottoirs de la connaissance en compagnie de Marianne Chassor, Alexis-Anne Braun, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes dans toute leur splendeur, cette semaine Jader Bulot, à la réalisation musicale consentante Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son racoleuse Jean-Guilain Meige. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera l'historien de l'art Georges Didier Huberman, qui viendra vous parler de son dernier livre, Peuple exposé, peuple figurant, publié aux éditions de Minuit. Comment penser la prostitution au-delà du pour ou contre ? Sur quoi fonder la réflexion afin, dans un second temps, éventuellement, de prendre parti ? Si la prostitution est un travail, nous devons, nous aussi, travailler avant de tomber dans la facilité de l'indignation face aux arguments brandis par le camp adverse. Indignez-vous, pourquoi pas, mais avant cela, prenez le temps d'y penser, le temps de 4 émissions qui vont chacune rentrer dans le vif du sujet. Et c'est avec Splendeur et misère des courtisanes, le romanesque à l'état pur selon Balzac, que nous allons commencer cette semaine, ce qui n'est pas une façon de prendre le sujet de biais, mais au contraire, d'assumer la difficulté qu'il y a à penser la prostitution en dehors de l'univers de représentation et de fantasmes auquel elle est liée, et de montrer comment l'esthétique est souvent le meilleur masque de la morale. Du romanesque pour commencer donc, avant de retrouver demain le philosophe Ruven Augien pour une réflexion autour de la marchandisation du corps, la philosophe Michela Marzano, mercredi, qui s'interrogera sur la pertinence d'une réflexion féministe sur la prostitution, et l'historien en chef Alain Corbin, qui jeudi nous rappellera que de la maison close au trottoir, la prostitution, comme tout objet de pensée, est elle aussi tributaire d'une histoire spécifique. Mais aujourd'hui, pour l'heure, écoutons la Balzacienne Nathalie Price nous conter l'histoire de ces courtisanes qui ne se contentent pas de marchander leur corps, mais vendent aussi leur âme.
Voyez, en mon expérience, vous avez été imprudent. Pour pouvoir mépriser les lois du monde, il faut être de ceux qui les dictent, non de ceux qui les subissent. Les petits sont pour servir, les grands pour se servir.
Je ne sais que trop, mon père.
Mais au fait, voilà bien longtemps que nous bavardons sans nous connaître. Je suis l'abbé Carlos de Herrera, chanoine honoraire de la cathédrale de Tolède, chargé de mission par Sa Majesté d'Espagne.
Mes titres sont plus obscurs, monsieur l'abbé. Ma mère était pourtant de naissance noble et j'aurais pu être marquis. Ma mauvaise étoile ne l'a pas voulu. Je m'appelle Lucien Chardon.
Et vous en souffrez, n'est-ce pas? Vous êtes ambitieux.
À en mourir.
Mieux vaut en vivre. Voulez-vous réussir? Je suis capable de vous mener très loin dans la voie du pouvoir. Je vous ai rendu la vie, consentez à m'appartenir. Comme une créature appartient à son créateur. Et je ferai votre fortune.
Encore une fois, pourquoi?
Parce que je suis seul. Seul de la plus épouvantable des solitudes. Celle de l'âme. Qu'il soit forçat ou lépreux, infâme ou malade, l'homme n'a qu'une pensée. Trouver le complice ou le compagnon de son destin. Veux-tu être celui-là?
Vous faites un étrange prêtre, monsieur l'abbé.
Il ne faut pas se fier aux apparences, mon enfant.
Bonjour Nathalie Price.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de Balzac à nouveau. Vous étiez venu l'an dernier nous en parler. Nous étions chez Balzac à l'époque.
Absolument.
Et nous sommes donc au studio de la Maison de la Radio en direct. Vous êtes responsable du groupe d'études balzaciennes et vous allez nous transmettre votre passion balzacienne comme vous savez le faire aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait du film, une adaptation de Splendeur et misère des courtisanes, un film qui date de 1943 où c'est Michel Simon qui joue Vautrin et Georges Marchal qui interprète Lucien. Lucien dit d'ailleurs à Herrera, qui est l'autre nom de Vautrin dans l'extrait qu'on a entendu, hein, les titres sont plus obscurs lorsqu'Herrera lui demande quel est son titre, le titre de marquis. Et en effet, le titre Splendeur et misère des courtisanes, le pluriel de ce titre est peut-être ce qui laisse planer le doute quant à l'identité des courtisanes, puisqu'on vient de l'entendre, Lucien va vendre son âme à Herrera, si bien que peut-être la courtisane se situe dans le personnage de Lucien plutôt que dans celui de la prostituée. On verra, hein, Esther, qu'en pensez-vous ?
Alors, rendons tout d'abord à César ce qui est à César. C'est Pierre Citron, dans son édition de la Pléiade, qui s'interrogeait justement sur ce pluriel, splendeur et misère des courtisanes, un pluriel d'ailleurs sur lequel nous pourrons peut-être revenir. Mais je voudrais m'arrêter sur ce que vous dites et sur cette hypothèse précisément de Pierre Citron, qui dit « s'il y a courtisane au pluriel, c'est qu'en fin de compte, il y a Esther, mais il y a aussi Lucien. Lucien qui serait le prostitué, en quelque sorte, de Vautrin, et pas simplement de Vautrin, puisque Lucien, en effet, dans la troisième partie d'Illusion perdue, et même dans la deuxième partie d'Illusion perdue, puisque Splendeur et misère des courtisanes, ce roman doit être lu dans la perspective d'une trilogie, de la trilogie qui est habitée justement par Vautrin, le père Goriot, Illusion perdue, et enfin Splendeur et misère des courtisanes. Et Lucien est montré dans Illusion perdue comme un homme-femme, en quelque sorte. Il est montré ayant des ongles, des ongles efféminés, mais homme-femme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, voire homme-fille, et je dirais que Maupassant s'en souviendra. Et puis, il est montré, et il est dit par Vautrin dans Splendeur et misère des courtisanes, comme une femme manquée, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on peut penser, en effet, que c'est lui aussi qui est la courtisane, dans ce pacte avec Vautrin, que l'on a souvent pensé comme un pacte faustien. La notion de pacte est capitale, évidemment, dans l'œuvre balzacienne. On la trouve dans La peau de chagrin. Il y a de très grands liens, on y reviendra tout à l'heure peut-être, entre La peau de chagrin et Splendeur et misère des courtisanes. Pacte faustien. Alors, on peut croire à cela, en effet, dans la mesure où Vautrin, qui est l'ancien forçat, veut, en effet, un bon mois, veut se venger de la société. Et c'est pour ça qu'il cherche ce Lucien. Lucien sera son bon mois. Et ce qui est intéressant, avant d'en venir d'ailleurs au pacte faustien, c'est que le rapport entre Vautrin et Lucien n'est pas tellement un rapport, je dirais, de prostitution, mais un rapport de créature à créateur. C'est-à-dire que c'est d'un point de vue romanesque, d'un point de vue romanesque au sens non pas de ce qui serait fictionnel, mais romanesque au point de vue esthétique, que cela intéresse avant tout Balzac. Il ne forme qu'un, d'une certaine façon. Parce que Lucien, on le voit très bien dans Illusion perdue, c'est l'homme qui a du talent, c'est un poète, c'est un grand poète, de toute façon. Il a ce talent, mais il n'a pas l'énergie, il n'a pas la volonté qui, dans la perspective balzacienne, permet véritablement de créer. Donc l'association Vautrin-Lucien, c'est en quelque sorte la constitution du créateur idéal pour Balzac. Et d'ailleurs, dans Splendeur et misère des courtisanes, Vautrin dit à Lucien, Lucien, tu seras le drame, je serai l'auteur. C'est-à-dire que fondamentalement, Vautrin n'est pas du tout celui qui manigance, n'est pas du tout en quelque sorte le machineur, mais il est le machiniste en quelque sorte qui donne à Lucien la colonne vertébrale qui lui manque. Et c'est ça qui est absolument capital et dans la relation.
C'est comme ça que Balzac l'écrit. Hein. Il écrit donc au début du roman, le chapitre « Comment aiment les filles ?» À eux deux, Lucien et Herrera formaient un politique. Là, sans doute, était le secret de cette union. Les vieillards, chez qui l'action de la vie s'est déplacée et s'est transportée dans la sphère des intérêts, sentent souvent le besoin d'une jolie machine, d'un acteur jeune et passionné pour accomplir leur projet. On a ici le terme de machine. Dans l'extrait qu'on a entendu qui a ouvert l'émission, il faut le dire, c'était la fin des Illusions perdues, où Vautrin va venir sauver Lucien d'une tentative de suicide. Et c'est à ce moment-là où Vautrin lui propose d'être le créateur et de faire de Lucien sa propre créature.
Absolument.
Donc ici, il est intéressant de voir que le thème de la création passe par cette machinerie, comme si Lucien n'était qu'un objet pour Vautrin.
Sinon, un objet, parce qu'il n'aurait pas choisi Lucien si Lucien n'était pas beau, c'est ce qui manque à Vautrin, et cette beauté merveilleuse, hein, Vautrin en est totalement amoureux. Il est beau, il est poète, il a du talent. Bien entendu, il va se fourvoyer, non pas dans le journalisme, mais dans le petit journalisme, et on dira il n'a rien dans le ventre, bien sûr, mais il a du talent. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important, mais il lui manque cette volonté, et notamment la volonté d'exécution. Et c'est pour ça qu'il forme un. Et la notion de machine ne renvoie pas du tout à la notion en quelque sorte de fausseté de la part de Vautrin, mais du côté du fictif. La machine, ça renvoie à la machinerie du théâtre. C'est ça qui est en jeu, d'où la notion précisément d'auteur. Et ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'à la fin de Splendeur et misère des courtisanes, il y a des lettres envoyées à Lucien qui risquent de compromettre de grandes dames. Donc bien entendu, Vautrin va essayer, pour devenir ce qu'il veut être, à la fin chef de la sûreté, de récupérer bien entendu ces lettres. Et ces lettres vont se trouver dans une boutique qui s'appelle le Bouclier d'Achille. comme par hasard, bouclier d'Achille, et par là même, il y a dans vos trains du Vulcain. Non pas simplement parce qu'il serait, je dirais, le diable boiteux, mais parce que c'est celui qui forge véritablement Lucien. Donc il y a ce rapport de création, et c'est ça qui est capital. Et cela dépasse donc la notion de prostitution, et de vendre ou son âme, ou son corps d'ailleurs, pour Lucien. Cela va tout à fait au-delà pour Balzac. Et ça va au-delà du pacte faustien, parce que vous parliez justement de ce pacte tout à l'heure. Parce que je dirais que le pacte faustien se comprend dans un monde avec Dieu. Je dirais que le pacte, c'est l'envers diabolique de l'alliance de créateur avec sa créature, de la promesse. Du côté du pacte, on a ce serment, on a un don qui n'est plus un don, mais qui devient une possession. Et en effet, ce qui caractérise Vautrin, c'est ce qu'il appelle sa passion du dévouement, mais qui est une passion du recrutement et qui possède. Bien entendu. Donc, en quelque sorte, je dirais que le pacte faustien, c'est l'envers diabolique de l'alliance divine. Et d'une certaine façon, c'est rassurant, parce que ça suppose qu'il y a un dieu. Donc, c'est, si je puis dire, du diabolique, sinon boiteux, du moins du diabolique au petit pied. Bien. Et Vautrin, qui est l'homme moderne par excellence, qui définit la modernité vraiment dans la comédie humaine, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de loi, les dieux, les rois et les lois s'en vont, hein, c'est cela. C'est très bien qu'on passe précisément de l'alliance au contrat. Le contrat, c'est-à-dire on n'est plus dans le don, on n'est plus dans la faute, mais on est dans la dette. Et c'est ce qu'il va proposer justement à Rastignac dans Le Père Goriot. Mais là, on a un pas de plus dans Splendeur et misère des courtisanes qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de contrat. On est entré dans l'ère moderne qui est ouverte, je dirais, non pas par la révolution de 89, mais par la terreur de Méduse. Et avec Méduse, il n'y a pas de contrat possible. Méduse, on est soit éloigné, soit si on est près d'elle, on est, je dirais, scotché. Hein, on est absolument carbonisé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le rapport de Vautrin à Lucien est le rapport de Méduse au médusé. En effet, le personnage qui a les yeux revolvers, si je puis dire, dans Splendeur, désert et misère des courtisanes, ce n'est pas Esther. Celui qui a les yeux revolvers et le regard qui tue, c'est Vautrin. C'est Vautrin qui pétrifie Lucien et qui, comme Méduse, est lui aussi pétrifié, c'est très net. Il tient à la fin, puisque Lucien va se suicider dans Splendeur et misère des courtisanes, Lucien qui devient un cadavre de pierre, et sur le tombeau de Lucien, eh bien, Vautrin sera comme une statue de pierre taillée par les tailleurs d'images du Moyen-Âge. Et alors c'est là peut-être le sommet, je dirais, du mal pour Balzac et de ce que pourrait le mal, non pas moral, mais métaphysique de la prostitution, c'est-à-dire l'idée que l'aliénation, parce qu'il y en a une, ce n'est pas d'une certaine façon être possédé par l'autre, comme pourrait être Vautrin, comme pourrait être Esther, mais dépossédé de l'autre, c'est ce que dit tellement merveilleusement Baudrillard dans ce merveilleux texte, la chirurgie esthétique de l'altérité. Et je dirais que ça éclaire véritablement ce rapport très particulier de Vautrin à Lucien dans le texte.
Après avoir acheté la vie de Lucien au moment où ce poète au désespoir faisait un pas vers le suicide, il lui avait proposé l'un de ses pactes infernaux, qui ne se voit que dans les romans, mais dont la possibilité terrible a souvent été démontrée aux assises par de célèbres drames judiciaires. En prodiguant à Lucien toutes les joies de la vie parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait se créer encore un bel avenir, il en avait fait sa chose. Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet homme étrange, dès qu'il s'agissait de son second lui-même. Au milieu de sa force, il était si faible contre les fantaisies de sa créature qu'il avait fini par lui confier ses secrets. Peut-être fût-ce un lien de plus entre eux que cette complicité purement morale. Depuis le jour où la torpille fut enlevée, Lucien savait sur quelle horrible base reposait sur son bonheur.
I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place is a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me and give me back the gift of laughter. Yeah, one love who would stand by me. And after making love, we dream a bit of style.
Nathalie Price, vous dites que Lucien n'a pas vraiment vendu son âme à Vautrin, dans la mesure où ici on n'est pas dans une forme de marchandage, mais au contraire de contrat, et qu'on dépasse le pacte faustien. Et pourtant, dans l'extrait que je viens de lire, le narrateur le dit très clairement, il s'agit d'un pacte infernal, et Vautrin a fait de Lucien sa chose.
Oui,
mais si là, on n'est pas dans une relation de courtisan à courtisé.
Non, non, mais ce que je disais, c'est que précisément, tout l'enjeu de Splendeur et Misère des courtisanes, c'est qu'on n'est plus dans le contrat. On est dans l'annulation de contrat. D'où ce rapport, justement, de médusé à médusant, de Vautrin à Lucien, où avec Méduse, il n'y a pas de contrat possible. C'est vraiment le tiers exclu. Et c'est ça qui est véritablement en jeu. D'où cette idée que Lucien est la chose de Vautrin, la chose, c'est-à-dire le rien. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en quelque sorte, on pourrait espérer un mystère de l'incarnation. Il cherche à s'incarner véritablement Vautrin. Il n'a pas réussi avec Rastignac, il n'y arrivera pas avec Lucien, puisque Lucien se suicide, il n'y arrive pas non plus avec Théodore Calfi, et sa dernière incarnation, est-il dit, c'est très nettement, c'est l'incarnation dans une chose, il devient chef de la sûreté, une chose res, c'est-à-dire le rien. Vautrin vaut rien, en quelque sorte. C'est cela. On est passé, dans Splendeur et misère des courtisanes, du mystère de l'incarnation à l'incarne. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je dirais qu'il y a un lien très étroit entre La peau de chagrin et Splendeur et misère des courtisanes, où aussi il y a l'idée de pacte avec l'antiquaire et Raphaël et l'antiquaire. Et on aboutit à ce rien. C'est-à-dire que le roman de Splendeur et misère des courtisanes est entièrement fondé sur la déception, plus exactement la déceptivité. On croit posséder quelque chose et puis il n'y a justement plus rien. Et ça se termine ainsi. Le texte se termine non pas sur une mort, ça serait encore quelque chose, mais sur la disparition, l'amuissement, si je puis dire, de Vautrin à la fin.
Et d'ailleurs,
disparaît, il se retire. C'est ça qui est merveilleux, ce terme de se retirer. C'est cette dérobade.
Cette impossibilité de s'incarner est présente, oui, dès le début du roman, puisque, oui, le roman s'ouvre avec une scène de bal où les gens sont costumés et masqués. Oui. La première apparition de Vautrin, justement, est masquée. On ne reconnaît que sa voix. Oui. Il s'adresse à Rastignac, en quelque sorte le double de Lucien avec lequel Vautrin a échoué. Oui. Puis ensuite, on en revient à Lucien. Et c'est là où l'on découvre ce personnage de la torpille, qui est l'autre nom d'Esther, qui, elle, est la courtisane de manière plus attendue, puisque c'est en effet une femme qui vendait son corps. Peut-être, disons-le tout de suite, la différence entre prostituée et courtisane. Une courtisane choisit les personnes à qui elle va vendre son corps, disons.
Mais je dirais que le paradoxe, justement, c'est que le terme de courtisane soit appliqué à Esther. Or, précisément, elle n'est pas cette courtisane qui déjà désignerait quelqu'un qui a un certain rôle social, c'est-à-dire celle, en effet, qui prête ses charmes, mais d'une certaine façon parce qu'elle le vaut bien, et qui peut tenir salon, je dirais, et qui peut avoir toute une cour, précisément, autour d'elle. Et en fin de compte, la vraie courtisane dans la comédie humaine, d'une certaine façon, qui est cette Laurette distinguée, Michel Lichley a bien retrouvé ce titre justement dans sa édition toute récente de Béatrix, c'est Madame Schontz dans Béatrix, qui est cette Laurette qui a pour amant Arthur de Rochefide, parce que de toute façon, là, Balzac joue, puisqu'en effet, dans le vocabulaire des Laurettes, l'amant c'est Arthur, et là c'est Arthur de Rochefide, et qui va monter en grade et devenir la femme de Fabien du Ronceret, et elle est très cultivée, etc. Bien. Alors que, d'une certaine façon, ce qui caractérise d'où peut-être ce pluriel qui ne renverrait pas forcément simplement à Esther et Lucien, mais c'est parce qu'elle est fondamentalement plurielle, puisque Esther est présentée tout d'abord comme la fille soumise, c'est son premier état, c'est-à-dire une fille enregistrée par la police, elle est dans une maison enregistrée, la maison de Madame Ménardier, etc. Ensuite, elle est présentée comme le rat. Alors le rat, c'est la petite danseuse d'opéra, mais pas du tout charmante, mais qui grignote beaucoup et qui grignote la fortune de tout. Et à l'époque, il y a tout un ensemble que j'ai apporté, qu'on ne peut pas voir évidemment à la radio, mais dans le muséum grotesque et de toutes les curiosités de la banlieue de Paris, on a justement le rat. Donc, elle est le rat. Et Vautrin veut en faire la femme comme il faut. Et d'ailleurs, Balzac a consacré, dans Les Français peints par eux-mêmes, un article à la femme comme il faut. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est présentée, et il y a tout un jeu là-dessus, comme une madeleine. Alors, beaucoup d'éditions disent madeleine, bien entendu, parce que ça renvoie à la madeleine, la pécheresse en quelque sorte repentie, la pécheresse pardonnée dans l'Évangile. Une madeleine, alors tout le monde met cette note. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Madeleine, à l'époque, dans les années 1840, est devenue un nom commun sous l'influence de ce que l'on appelle à l'époque la philosophie humanitaire, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on appelle humanitaire actuellement. Ah, ça, je tiens à le préciser. Alors, je vais très vite. La philosophie humanitaire, elle est attachée à Pierre Leroux, dans son ouvrage de l'humanité, qui utilise des concepts, je dirais, catholiques, mais pour leur enlever, je dirais, tout leur sens, puisque c'est l'idée que la divinité n'est pas transcendante, mais immanente à l'humanité. Donc, l'humanité se régénère elle-même. D'où la focalisation sur certaines figures. Alors Jésus-Christ, mais l'une parmi d'autres, mais c'est surtout la pécheresse, justement régénérée par l'amour, par la maternité aussi. Et donc la Madeleine va devenir une figure fondamentale de toute la philosophie humanitaire, la poésie humanitaire, avec Eschyros et son équivalent, c'est la Vierge folle. Là encore, c'est emprunté à l'Évangile. Eschyros ayant écrit une trilogie, les Vierges folles, les Vierges sages, les Vierges martyrs. Et on a une physiologie, qui sont des études de mœurs, qui s'appelle la physiologie de la fille sans nom, d'un certain Charles Marshall, qui voulait écrire une, je l'ai apporté, qui voulait écrire une physiologie de la Vierge folle. Donc Madeleine devient un nom commun. On a les Madeleines, hein, bien entendu, c'est l'objet des caricatures, et on ne le redira jamais assez, je vais très vite, mais Balzac, qui est tout à fait imbibé, je dirais, des caricatures de son temps, et il y en a eu une merveilleuse de Gavarni dans la série des artistes, où l'on voit justement un modèle demander à l'artiste, « Monsieur Henri, la Madeleine, c'est une femme qui avait fait des bêtises. » Et Monsieur Henri répond « À mort !» Précisément, ça devient un nom commun d'ailleurs. Dans Madame Bovary, qui, dont l'intrigue se passe vers 1840, on cherche un nom pour la fille de Madame Bovary et Léon pense à Madeleine. C'est très à la mode maintenant. Donc, elle est la Madeleine et évidemment, Balzac joue sur la Madeleine pénitente puisque justement, elle pense au désert. Esther, c'est la femme du désert. Mais elle est en quelque sorte plurielle et elle est présentée aussi comme une grisette. Or, la grisette, ce qui est caractéristique de la grisette, c'est que précisément, elle est au bord de sa fenêtre et toujours au bord d'autre chose. Elle est borderline, hein, la grisette. On a fait une exposition justement là-dessus. Donc fondamentalement, ce qui est souligné dans Esther, c'est que la courtisane ne peut se décliner d'une certaine façon qu'au pluriel. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Elle appartient à la tribu des bohémiens sans frontières. Elle est d'ailleurs présentée comme une bohémienne. Et Balzac dira à propos du type, donc c'est pas du tout le personnage qui rassemble tous les éléments et qui les font en une unité, mais au contraire qui démultiplie puisqu'il dit à Paris, un type ce n'est pas un homme, c'est un spectacle. Et c'est pas pour rien qu'on commence par le carnaval. Justement.
Alors avant, si Esther est multiple, avant d'être Madeleine, avant d'être courtisane, avant d'être grisette, elle est torpille, on l'a dit. Et la torpille, justement, se renvoie au poisson torpille, ce poisson qui va injecter un poison à ses victimes avant de les dévorer, avant d'en faire leur repas. Et c'est exactement ce qui nous est donné à voir dans la première scène, la première rencontre entre Esther et l'abbé Carlos Herrera. Esther, après la scène du bal où elle s'est fait démasquer et donc ridiculisée par le monde, a essayé de se donner la mort. Et donc Herrera, une fois de plus, de même qu'il sauve Lucien du suicide, vient sauver Esther de son suicide. Et c'est l'occasion donc de la rencontre entre le bagnard d'un côté et la prostituée torpille de l'autre. Écoutez.
Cette libération civile et politique si difficile à obtenir, que la police a raison de tant retarder dans l'intérêt de la société même, et que je vous ai entendu souhaiter avec l'ardeur des vrais repentirs, la voici, dit le prêtre, en tirant de sa ceinture un papier de forme administrative. À la vue de ce papier, les tremblements convulsifs que cause un bonheur inespéré agitèrent si ingénument Esther qu'elle eut sur les lèvres un sourire fixe qui ressemblait à celui des insensés. Le prêtre s'arrêta, regarda cet enfant pour voir si, privé de l'horrible force que les gens corrompus tirent de leur corruption même et revenu à sa frêle et délicate nature primitive, elle résisterait à tant d'impressions. Courtisane trompeuse, Esther eut joué la comédie. Mais redevenue innocente et vraie, elle pouvait mourir, comme un aveugle opéré peut reperdre la vue en se trouvant frappé par un jour trop vif. Cet homme vit donc, en ce moment, la nature humaine à fond. Mais il resta dans un calme terrible par sa fixité. C'était une alpe froide, blanche et voisine du ciel, inaltérable et sourcilleuse, au flanc de granit, et cependant bienfaisante. Les filles sont des êtres essentiellement mobiles, qui passent sans raison de la défiance la plus hébétée à une confiance absolue. Elles sont, sous ce rapport, au-dessous de l'animal, extrêmement tout, dans leur joie, dans leur désespoir, dans leur religion, dans leur irréligion. Presque toutes deviendraient folles si la mortalité qui leur est particulière ne les décimait et si d'heureux hasards n'élevaient quelques-unes d'entre elles au-dessus de la fange où elles vivent. Pour pénétrer jusqu'au fond des misères de cette horrible vie, il faudrait avoir vu jusqu'où la créature peut aller dans la folie, sans y rester, en admirant la violente extase de la torpille aux genoux de ce prêtre.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h25 et nous commençons aujourd'hui une semaine consacrée à la prostitution, avec aujourd'hui, en guise d'ouverture, un roman splendide, Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. C'est en compagnie de la balzacienne Nathalie Price que nous en parlons. Comment comprendre Nathalie Price alors que Balzac insiste autant sur la nature plurielle de l'identité d'Esther et même de Vautrin qui change de visage, qui change de visage, de peau, de profession, de personnalité tout le long du roman, d'ailleurs à chaque apparition quasiment dans tous les romans de Balzac. Comment comprendre que derrière cet aspect mobile, mouvant, personnage à multiples facettes, réside quand même ce qu'il nomme une nature primitive à laquelle il renvoie en permanence les personnages et surtout cette Esther dont la nature primitive est d'être une courtisane, qui donc, dit-il, et si elle avait été une courtisane trompeuse, elle aurait pu jouer la comédie, mais redevenue innocente et vraie, elle pouvait mourir en revenant à sa nature frêle et délicate de nature primitive. Comment comprendre ce contraste entre les deux ?
Oui, c'est un paradoxe, je dirais. D'abord une contradiction, mais qu'on peut peut-être résoudre précisément par un paradoxe. Puisque, en effet, Balzac parle de nature, parle d'animalité, d'une certaine façon, et il reprend par là, je dirais, tout le discours de tout un courant, d'un courant philanthropique. On pense à Parent Duchâtelet, exactement, qui pense à la nature, justement.
Donc, Parent Duchâtelet, qui est un médecin...
Parent Duchâtelet, qui est un médecin hygiéniste tout à fait capital, avec son ouvrage de 1836 sur la prostitution, évidemment, auquel Balzac fait référence plus ou moins explicitement, et qui est capital parce que justement il a insisté sur cette nature mobile, et surtout il est capital, comme l'a très bien montré Alain Corbin, c'est qu'il pose sur la prostitution le regard du physiologiste, du pathologiste en quelque sorte, à partir de son étude sur les cloaques, puisqu'il y a un lien évidemment entre l'ordure et la prostitution dans l'imaginaire de l'époque. Et il y a l'idée, comme le souligne Alain Corbin, chez Parent Duchâtelet, en quelque sorte d'assainir en transformant par une sorte de thermodynamique, je dirais, l'excrément, c'est-à-dire non pas de le stériliser, mais de le fertiliser. Et il y a chez Balzac aussi cette thermodynamique, justement, cette énergie productive, cette dépense productive, et il y a un regard de physiologiste chez Balzac.
Je rappelle juste qu'on recevra Alain Corbin jeudi prochain, qui viendra nous en parler.
Il en parlera beaucoup mieux que moi, bien sûr. Donc, il y a cette idée-là chez Balzac, nature mobile. Mais justement, lorsqu'on étudie cette notion de nature mobile, qui semble renvoyer à une sorte de déterminisme, il faut se rendre compte que c'est un oxymore, nature précisément, et mobilité. Et donc, d'une certaine façon, Balzac dynamite par cette expression la notion même de nature. Et on ne peut comprendre nature mobile que si on rattache cela à la méditation de Balzac sur la circonstance. Pour Balzac, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de loi, c'est ce que dit Vautrin, c'est pour ça qu'il est capital. Il n'y a que la circonstance qui, par définition, est toujours mobile. Donc, suivant les milieux, il y aura une formule différente, et c'est vrai pour Esther, parce qu'on parle de sa nature primitive, mais jamais Balzac ne dit ce qu'est cette nature primitive. Ce n'est pas forcément sa nature de courtisane. C'est la nature de l'amour, ce qui est tout à fait différent. Et là où il dynamite totalement cette notion de déterminisme, c'est que la seule hérédité d'une certaine façon, et c'est ça qui est paradoxal, et ça je voudrais peut-être y revenir, c'est que la seule hérédité d'Esther, c'est l'hérédité qui est liée à ce que Balzac appelle la race juive, selon l'expression du temps, dont on sait qu'elle n'a aucun fondement. Et pour Balzac, justement, la race juive renvoie à l'Orient et l'Orient à l'infini. Et c'est l'idée qu'Esther est une fille du désert et que d'une certaine façon, elle a hérité de ses ancêtres la contemplation de l'infini. Et dans ses yeux, il y a, comme chez ses ancêtres, une sorte de tapis réflecteur qui renvoie l'infini du désert. En quelque sorte, l'hérédité d'Esther, c'est une hérédité de l'infini. Donc vous vous rendez compte qu'à partir de là, combien Balzac remet en cause cette notion, je dirais, ou d'hérédité naturelle ou de déterminisme social, justement.
Enfin, quand même, il insiste énormément sur le déterminisme, qu'il soit social ou même génétique, dès qu'il décrit un personnage. Mais c'était la mode, si je puis dire, à l'époque. Hein. Il insiste sur les traits physiques en montrant que c'est parce qu'elle, cette Clotilde que Lucien va épouser pour des raisons d'argent, alors qu'il est amoureux d'Esther. Oui. Clotilde, la manière dont elle est décrite, on insiste sur le front proéminent qui montre qu'elle n'est pas idiote. Sans arrêt, le physique renvoie à quelque chose. Et il parle de race. Oui, quand même, oui, alors, il ne prend pas toutes ses distances avec toute forme de déterminisme.
Parce que cette notion de race, encore, faut-il vraiment la travailler? Vous comprenez, quand vous lisez chez Michelet « Notre race, c'est 1789 », on comprend bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle race, justement, lié à tout soubassement
biologique. Mais quand Balzac emploie le terme, c'est pour renvoyer une forme de déterminisme quand même.
Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que j'insistais sur cet oxymore de la nature mobile. Bien entendu, on tient ce discours sur Balzac, et c'est vrai parce que Balzac emprunte à la physiognomonie, à la phrénologie, c'est-à-dire cette façon de lire le caractère par l'aspect extérieur. La phrénologie, c'est l'idée que lorsque nous avons une faculté qui se développe dans le cerveau, eh bien cela va se traduire par une proéminence. C'est le fameux système des bosses. Et bien entendu, elle a la bosse de l'amour et cela. Donc on a l'impression qu'il y a cela. Mais ce qui est toujours extrêmement retors, et c'est pour ça que c'est passionnant, Balzac, c'est qu'il pose cela. Et ça, c'est très voyant. Et ça, on peut le lire tout de suite. Mais en même temps, il dynamite de l'intérieur. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il dit la nature sociale. Et la nature sociale, c'est pas la nature qui serait modifiée simplement par la société. La nature sociale, c'est ce qui change absolument tout le temps, en quelque sorte. C'est cette mobilité, tout le temps. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a jamais une vertu, mais il y a plusieurs vertus, et qu'il voulait écrire une monographie, la vertu. Et ce qui est intéressant, c'est que Esther n'a pas simplement, et ça il faut aller plus loin, une nature mobile. Donc on dirait qu'il y a cette nature, donc qui serait un déterminisme à la fois physiologique et, je dirais, social de la courtisane, et qu'on trouve donc chez Parents du Châtelet. Elle est mouvement. À un moment, lorsqu'elle se lève dans une scène, elle sait déjà qu'elle va appartenir à Nucingen, mais voilà que Lucien arrive, elle se lève, et à ce moment-là, elle est comparée à un tissu en mouvement. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le vêtement n'est pas l'expression d'un être profond, hein, si vous voulez, comme l'on croit selon la sémiotique biasacienne bien connue, elle est mouvement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas apparence, elle est une succession d'apparitions, et on ne sait jamais quelle est la vraie, quelle est la fausse. Et c'est bien comme cela qu'elle apparaît à Nucingen, au bois de Vincennes. Hein, ce fut comme une apparition, vraiment. Et c'est pour ça que, vous le disiez très justement, il y a un lien, et ce lien très profond, avec Vautrin, qui n'est pas justement cet homme faux qui se déguise, hein, avec cette idée toujours de déguisement qu'il y a un être derrière l'apparence. Il est une succession d'apparitions dont l'une n'est pas plus juste ou pas plus fausse que l'autre. Et ça, c'est capital. C'est pour ça que tout est fait dans le texte pour parler de nature, en effet, parce que Balzac sait très bien, il connaît bien tous ses discours. Et en même temps, le texte fait la dynamique. La dynamique du texte fait que ça dynamite précisément ce qu'il est en train de mettre en place. Enfin, c'est ça qui est passionnant, je trouve.
Mais oui, justement, mais alors comment comprenez-vous ce texte qu'on trouve au début de Splendeur et misère des courtisanes, ce qu'on appelle la parabole des carpes, où Balzac raconte comment, je lis le début, on prit des carpes à un étang bourbeux pour les mettre dans un bassin de marbre et dans de belles eaux claires, afin de satisfaire un désir de Madame de Maintenon, qui les nourrissait des bribes de la table royale. Les carpes dépérissaient. Les animaux peuvent être dévoués, mais l'homme ne leur communiquera jamais la lèpre de la flatterie. Un courtisan remarqua cette muette opposition dans Versailles. « Elles sont comme moi, » répliqua cette reine inédite. « Elles regrettent leur vase obscur. Ce mot est toute l'histoire d'Esther. » Qu'est-ce que cette parabole, sinon le récit d'une forme de déterminisme? Une carpe qui naît dans la vase et que l'on met dans un bassin d'eau claire ne survivra pas.
Alors ça renvoie à Madame de Maintenon, la veuve Scarron, comme dit Saint-Simon, celle qui a rôti le balai. Bien entendu, c'est pour ça que ça intéresse Balzac, hein, ce soleil levant dans son automne, comme dit Saint-Simon, etc. Et on a l'impression, en effet, que c'est l'idée qu'Esther va être renvoyée à sa vase première, à sa fange première, et qu'elle ne peut pas la quitter, cette fange, d'une certaine façon. Or, cela apparaît dans un passage très précis. Il faut toujours remettre, évidemment, telle ou telle phrase dans son contexte. Ce moment qui est appelé nostalgie, où Esther est mise au couvent, parce qu'en effet, Vautrin veut en faire la femme comme il faut, qu'il soit une maîtresse, mais une maîtresse convenable pour Lucien, et donc elle doit être baptisée. Et en même temps, tout d'un coup, elle se met à embrasser les arbres, etc. Elle reviendrait donc à cette nature première, cette nature de courtisane. Et il y a une sorte de déterminisme, semble-t-il, là. Or, c'est moins un déterminisme qu'une mémoire du corps qui passionne absolument Balzac. C'est ce qu'il dit. Il ne parle pas de mélancolie. Il parle de mélancolie, mais il substitue au terme de mélancolie
celui
le terme
de nostalgie.
Ouais. Nostalgie qui est la mémoire du corps. Et chez Balzac, là encore, il dynamite les idées toutes faites. Ce qui ne meurt pas, ce qui est immortel, c'est pas l'âme, c'est le corps, d'une certaine façon. Le corps qui raconte une histoire est toujours votre histoire. Donc, c'est dans ce cadre très particulier. Mais la suite du texte, c'est de montrer précisément qu'avec Lucien, il va y avoir chez Esther non pas du tout cet arrachement à ce corps premier pour une élévation de l'âme par l'amour et l'infini, mais au contraire qu'en Lucien, elle va trouver son véritable corps, hein, un corps qui est son corps de torpille, qui n'est ni sordide ni torpide, vers lequel elle va, sinon au ciel, mais c'est peut-être la même chose, au septième ciel, justement, avec Lucien. Donc tout d'un coup, on quitte cette notion de vase. C'est pour ça qu'il faut voir, je dirais, toute la progression du texte et les bifurcations balsaciennes.
On prit des carpes à un étang bourbeux pour les mettre dans un bassin de marbre et dans de belles eaux claires, afin de satisfaire un désir de Madame de Maintenon qui les nourrissait des bribes de la table royale. Les carpes dépérissaient. Les animaux peuvent être dévoués, mais l'homme ne leur communiquera jamais la lèpre de la flatterie. Un courtisan remarqua cette muette opposition dans Versailles. « Elles sont comme moi, » répliqua cette reine inédite. « Elles regrettent leur vase obscur. » Ce mot est toute l'histoire d'Esther. Par moments, la pauvre fille était poussée à courir dans les magnifiques jardins du couvent. Elle allait affairée d'arbre en arbre. Elle se jetait désespérément aux coins obscurs en y cherchant. Quoi ? Elle ne le savait pas, mais elle succombait aux démons. Elle coquetait avec les arbres. Elle leur disait des paroles qu'elle ne prononçait point. Elle se coulait parfois le long des murs, le soir, comme une couleuvre, sans châle, les épaules nues. Souvent, à la chapelle, durant les offices, elle restait les yeux fixés sur le crucifix et chacun l'admirait. Les larmes la gagnaient, mais elle pleurait de rage. Au lieu des images sacrées qu'elle voulait voir, les nuits flamboyantes où elle conduisait l'orgie, comme Habeneck conduit au conservatoire une symphonie de Beethoven, ces nuits rieuses et lascives, coupées de mouvements nerveux, de rires inextinguibles, se dressaient, échevelées, furieuses, brutales. Elle était au dehors, suave comme une vierge qui ne tient à la terre que par sa forme féminine. Au dedans s'agitait une impériale Messaline. Elle seule était dans le secret de ce combat du démon contre l'ange.
La torpille, c'est rire et faire rire. Cette science des grands auteurs et des grands acteurs appartient à ceux qui ont pénétré toutes les profondeurs sociales. À 18 ans, cette fille a déjà connu la plus haute opulence, la plus basse misère, les hommes à tous les étages. Elle tient comme une baguette magique avec laquelle elle déchaîne les appétits brutaux si violemment comprimés chez les hommes qui ont encore du cœur en s'occupant de politique, ou de science, ou de littérature, ou d'art. Il n'y a pas de femme dans Paris qui puisse dire comme elle à l'animal « Sors !» Et l'animal quitte sa loge, et il se roule dans les excès. Elle vous met à table jusqu'au menton, elle vous aide à boire, à fumer. Enfin, cette femme est le sel chanté par Rabelais, et qui, jeté sur la matière, l'anime et l'élève jusqu'aux merveilleuses régions de l'art. Sa robe déploie des magnificences inouïes, ses doigts laissent tomber à temps leurs pierreries, comme sa bouche, les sourires. Elle donne à toute chose l'esprit de la circonstance. Son jargon pétille de très piquant. Elle a le secret des onomatopées, les mieux colorées et les plus colorantes. Elle.
Thank you.
Et oui, la torpille, c'est rire, Nathalie Price. Et il est important de le signaler alors qu'on entend le texte où on la montre, qui parle aux arbres sans prononcer de parole, qui se coule d'un tronc à l'autre et qui est dans le secret d'un combat entre le démon et l'ange. Et pourtant, au début du texte, la torpille sait rire. Non seulement elle sait rire, mais son jargon pétille de traits piquants. Et là, le secret des onomatopées les mieux colorées, les plus colorantes. Parle-t-on de la même personne ?
Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et je dirais que les Balzaciens sont très gênés par ça. Cette espèce de comique, en quelque sorte, dans Splendeur et misère des courtisanes. Alors on s'en ressort parfois en disant, ben oui, c'est comique au sens du roman comique, c'est-à-dire le roman du théâtre. Ou alors le comique est toujours contrebalancé par une autre scène. Bon, il y a bien entendu quelques petits jeux de mots à propos de Nucingen qui, à force d'attendre, puisque Esther lui a dit, ben, vous serez comme mon père. Il lui dit, oui, mais enfin, je voudrais quand même pas être le père éternel. Bien.
Vous alors, serez donc, comme mon père, c'est-à-dire je ne coucherai pas voilà, avec vous, puisque Vautrin demande entendu. À Esther d'épouser Nucingen pour sûr. Des raisons d'argent.
Voilà, voilà. Exactement. Bien. Alors donc, on est très gêné par ça. Or, c'est absolument capital et tout est fondé là-dessus. C'est-à-dire que le rire d'Esther envoie un rire très particulier, qui est le rire de la blague. C'est le terme d'ailleurs qu'elle utilise, blagon. Et qu'est-ce que c'est que la blague ? La blague, c'est un mot qui n'apparaît qu'au 19e siècle, en 1809. Alors, ce n'est pas la grosse blague du tout, telle qu'on peut la penser actuellement. Hein. Les mots du 19e siècle sont très retors parce qu'ils n'ont pas la même acception qu'à notre époque. Et la blague, si vous voulez, c'est sur le modèle de la blague à tabac, une plaisanterie trompeuse, mais par hablerie, par fanfaronnerie. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le faux vrai, mais le plein et le vide. Et d'ailleurs, le synonyme de la blague, c'est le puff. C'est un puff qui fait paf. Hein, si vous voulez, c'est l'effet barbapapa. Vous avez l'impression de prendre quelque chose. Puis vous n'avez rien. Enfin, j'adore la barbe à papa et je sais qu'il n'y a rien. Mais j'y vais quand même, précisément. Et c'est ça, le rire d'Esther. Et ça a fasciné la notion de blague, je dirais tous les auteurs, et Balzac en particulier, parce que c'est cette idée, justement, d'un texte ou d'une image qui ne renvoie qu'à elle-même. C'est cette espèce de fiction pure, si vous voulez. Et c'est la blague supérieure chez Flaubert, c'est le comique absolu chez Baudelaire. Et c'est ce que nous avons dans la relation au début entre Esther et Lucien, qui appartiennent, dit Balzac, à un domaine supérieur au domaine de l'art, la fantaisie, la fantaisie. C'est-à-dire, c'est une fiction pure qui ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même. Et ce à quoi on assiste dans le texte, c'est à la collision entre ce rire de la blague supérieure, qui est un rire aussi qui est allié au romantisme allemand, qui est ce que Jean-Paul appelle l'humour, c'est-à-dire l'infini dans le fini, qui fait en quelque sorte tout éclater avec violence. C'est ça, hein, le comique absolu. C'est pour ça que, évidemment, la blague, c'est le paf qui fait paf. Hein. On éclate, hein, vraiment, on éclate de rire. Bien. Mais il y a, face à cette blague supérieure, la blague tout court, c'est-à-dire paf qui fait paf, non pas un sublime par le bas, le sublime inversé, mais le sinistre du plat, hein, c'est platitude attitude. Et c'est ce qui se passe, hein, je dirais, dans cette première scène, où tout d'un coup, justement, Lucien et Esther sont dans ce monde de la fantaisie, de la blague supérieure, puis tout d'un coup, vous avez Bissou, qui est le personnage de blagueur dans la comédie humaine, justement, qui dit « Esther ». Et à ce moment-là, elle s'affaisse. C'est bien, véritablement, le soufflet qui s'affaisse. Et ça, je dirais que cette blague, qui ne renvoie à rien d'autre, où on est dans le sinistre du plat, c'est celle qui domine absolument tout. Et il ne faut pas oublier que Vautrin est le blagueur par excellence dans Le Père Goriot. Hein, il fait le boniment de Madame de Nucingen, cette épouse qui va à l'eau. Il est ce blagueur-là, justement, qui cherche quelque chose derrière la réalité, qui cherche l'infini et qui ne va pas le trouver. Et je commençais par cela au début, je parlais de ce roman fondé entièrement sur la déceptivité, c'est ça ce rire particulier de la blague. Je suis désolée, c'est un rire triste, c'est pour ça que justement c'est un comique qui ne fait véritablement pas rire d'une certaine façon. Et pourquoi y a-t-il aussi Nucingen ? Il ne faut pas oublier que
justement
Nucingen,
le baron Nucingen fait rire.
Oui, mais c'est l'homme
il
du
fait rire et il est dans l'expérience déceptive par excellence.
Absolument, parce que pourquoi ? Nucingen, et la maison Nucingen d'ailleurs dans l'édition de la Pléiade et selon notre ordonnancement de Balzac justement se trouve lié à Splendeur et misère des courtisanes, c'est celui qui organise un puff, c'est-à-dire non pas qui cache, je dirais, des malversations mais qui crée quelque chose qui n'existe pas. Hein, c'est ça, c'est cette blague qui ne renvoie véritablement à rien d'autre qu'elle-même, ça renvoie à la bulle financière. C'est le style bulle, je dirais, la blague. Hein, et une bulle justement qui fait paf. Donc vous voyez, c'est cela qui relie, je dirais, tous les personnages, mais ce passage de la blague supérieure à la blague, et c'est ça qui caractérise justement ce malheureux Nucingen, justement, qui croit prendre quelque chose et puis qui n'a rien. On est totalement dans ce rien-là, et ça se termine, encore une fois, par le rien justement.
Enfin, le rien. Alors, juste deux mots sur le baron Nucingen, que c'est quand même un personnage important qui fait rire et qui touche beaucoup. Lorsque Balzac le fait parler, il le fait parler uniquement en langage avec un accent alsacien très fort, de sorte qu'il est assez difficile pour le lecteur de lire ses interventions et de comprendre ce qu'il dit, puisque tous les V sont changés en F.
Absolument. Enfin,
donc déjà, on a un premier écran ici. Voilà, c'est ça. Il y a déjà un premier écran qui crée une distance entre le baron et le lecteur, ce qui contribue à ridiculiser ce baron. Le baron de Nucingen est fou amoureux d'Esther.
Absolument.
Il l'a vue une fois sans savoir qui elle était. Et puis, alors qu'il est en quête de cette personne magnifique dont il est tombé amoureux en un clin d'œil, des espions brigands, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont aussi des personnages importants, vont se mettre à son service en lui disant « Mais nous allons retrouver cette femme si vous nous donnez de l'argent. » Et tout le long du roman, Nucingen va se faire voler par ces espions qui vont l'aider à retrouver Esther, par les femmes de chambre de l'appartement où vit Esther qui sont au service de Vautrin, par Vautrin lui-même. Nucingen va se faire dépouiller de chaque centime qu'il possède pour finalement s'entendre dire de la part d'Esther que non, elle préférait qu'il reste son père, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas leur lien de manière sexuelle. Et Esther, prise de pitié, lui dit d'accord, je peux t'offrir mon corps, mais sache que le jour où ça arrivera, le lendemain, je me tuerai.
C'est ce qu'elle fait, précisément. Oui, Nucingen est très intéressant dans Splendeur et misère des courtisanes parce qu'il n'est pas pathétique, il n'est pas ridicule, il est véritablement touchant au sens quasiment du XVIIIe siècle et intéressant. C'est la première fois qu'il aime, en effet, hein, cette grosse caisse. Hein. Et on aurait une espèce de parodie, je dirais, de l'Évangile. Hein. Si vous pouvez avoir l'argent, etc., mais si vous n'êtes pas l'amour, vous êtes une cymbale qui résonne, bah lui, il est une grosse caisse qui résonne sans rien, hein, précisément. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'il y a en effet des éléments comiques tout autour de Nucingen. Et je voudrais m'arrêter sur une toute petite expression à propos de Nucingen. Justement, il sèche sur pied, puisque Esther ne veut pas se donner à lui. Et il dit, ah, l'amour, c'est peut-être de maigrir. C'est comme ça qu'il comprend les choses. Et il est présenté comme une laitue sans eau. Laitue sans eau. Alors, je me suis posé des questions sur cette laitue sans eau, cette laitue avec Nucingen. Alors, bien sûr, on comprend bien, parce qu'il n'y arrive pas. Bon, il est impatient, on comprend. Mais la laitue, quand même, elle est liée dans la mythologie à un personnage très intéressant qui est Adonis. Alors vous allez me dire Adonis Nucingen, bien, alors parodie bien sûr. Mais Adonis, c'est celui qui est très vert, mais qui ne tient pas la route. Il meurt très tôt, hein, je dirais, et il est lié justement à la laitue qui pourrit, véritablement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le culte que l'on rend à Adonis, Marcel d'Étienne a montré ça merveilleusement, ce sont un culte qui est, je dirais, cultivé précisément par des prostituées, avec les fameux jardins d'Adonis, où dans des petits pots, on met en effet des plantes qui poussent très vite, mais qui grillent très vite. Hein. Et je dirais que dans cette laitue, il y a peut-être de ce rappel d'Adonis, c'est-à-dire que, en quelque sorte, Nucingen, bien entendu, est une grosse caisse, mais il n'a pas de coffre, hein, justement. Hein, il est véritablement à bout de souffle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend ses fameuses pastilles du sérail pour se donner, si je puis dire, du cœur au ventre. Mais il faut savoir que ces pastilles du sérail, contrairement à l'usage qu'il en fait, étaient des pastilles pour la fumigation. Alors, en plus, il en prend double dose, évidemment, hein, quand on va aborder Esther, on comprend. Et son serviteur lui dit, écoute, faites quand même attention, mais enfin, il en prend quand même double dose. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant derrière ce personnage, cette première fois de Nucingen, d'une certaine façon. Roll on thunder, shine on lightning, the days are long and the nights are frightening, nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Well, some grow wiser, you just grew older. Well, you never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. Goodbye Nathalie Price, merci beaucoup. On se quitte sur la bande originale de Phantom of Paradise, qui est peut-être une des meilleures interprétations du pacte faustien dont on a parlé aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs donc à la lecture de Splendeur et misère des courtisanes. On trouve notamment une très bonne édition en livre de poche. Love yourself as you love no one. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it.
Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you, and we only waste it anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed, nobody liked you and you're better off dead. Goodbye,
goodbye.
We've all come to say goodbye,
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 goodbye.
Born defeated, died in vain, super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well all of us are glad you're gone.
France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour Jean-François.
Bonjour Adèle. Le peuple est entré tardivement dans l'espace artistique. Les misérables, les sans-nom, semblent aujourd'hui plus visibles. Mais de quelle manière? C'est la question que pose Georges Didier Huberman dans « Peuples exposés, peuples figurants » paru chez Minuit. Georges Didier Huberman, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir au Journal de la philosophie pour ce quatrième tome de L'œil de l'histoire. Vous poursuivez votre travail sur la relation entre image et histoire et vous dites, c'est le paradoxe, qu'en apparence le peuple est aujourd'hui très exposé, mais qu'en fait il est sous-exposé ou surexposé. Que voulez-vous dire?
Et même pire, il est exposé à disparaître, à mon avis, dans beaucoup de cas. Exposé est un mot intéressant parce que ça veut à la fois dire être en danger, de disparaître, par exemple, et ça veut dire être soumis à une représentation. Alors, exposé, voilà, je l'entends dans ces deux sens. Vous savez très bien que des peuples, vous pouvez en voir partout, à la télé, tous les jours, dans les documentaires. Vous pouvez faire du tourisme, vous pouvez aller dans le monde entier, etc. Ça, c'est ce que j'appellerais la surexposition. Voilà. Et puis, il y a la sous-exposition. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on vous censure. Donc, voilà. Et la question est de savoir où se trouve la lumière juste, si vous voulez, hein, dans la représentation. Alors, c'est intéressant. Dans votre présentation, vous avez dit le peuple et puis vous avez fait référence aux misérables. Alors, je précise que moi, je ne dis jamais le peuple. Je dis les peuples, comme les misérables.
Vous dites le petit peuple.
Je dis les petits peuples.
Alors qu'est-ce que vous entendez par les petits peuples par rapport aux masses ou aux peuples avec un grand P?
On pourrait dire très vite, le peuple avec un grand P, c'est une hypostase. Hein. On déduit une unité de quelque chose qui est extrêmement multiple. Mais vous savez bien que le peuple, ça n'existe pas. Même un peuple comme, je ne sais pas, vous savez, il y avait ce film magnifique qui s'appelait « First Contact ». Le premier contact avec des autochtones de Papouasie, avec des occidentaux, hein, filmé dans les années 30. Mais ce peuple absolument autochtone, qui n'avait jamais eu de contact avec qui que ce soit, c'était pas un peuple, c'était des peuples déjà. Ouais. C'était les hommes et les dieux, c'était les hommes et les animaux, c'était les hommes et les femmes, etc. etc.
Disons qu'au 19e siècle, le peuple, en tout cas, c'est une entité rhétorique qu'on trouve chez Michelet et même chez Hugo, que vous travaillez vous-même.
Oui,
le
oui,
peuple. Oui.
Oui, mais justement, c'était intéressant que vous parliez des misérables. Moi, oui, ça m'intéresse oui. plutôt la question du pluriel. Avec ça, je dialogue beaucoup avec une pensée comme celle de Jean-Luc Nancy, notamment son magnifique livre sur le être singulier oui, pluriel. Hein, qu'est-ce que c'est comment parler de quelque chose en admettant, en faisant entrer sa multiplicité.
Oui. Alors, justement, la référence à Nancy nous amène aussi peut-être à la notion de communauté. Oui. Est-ce que vous pourriez dire concrètement quels sont pour vous les angles qui permettent d'approcher telle communauté, tel peuple, tels individus? Est-ce qu'on est dans des effets d'individuation ou est-ce qu'on est quand même toujours obligé d'être dans un cadrage qui englobe des personnes sous le terme générique de communauté?
Alors, je n'ai pas exactement posé le problème de la communauté, me semble-t-il, hein, dans ce livre, mais peut-être vous lisez
non,
mieux
c'est,
que
non,
moi.
Non, c'est la fin de votre... Je lis troisième chapitre, Georges Huberman, les partages de communauté.
Alors justement, insistons sur le mot partage, oui. parce que justement, par exemple, la question se pose... Puisque je suis parti de représentation, hein. La question se pose, regardez un film, vous avez un film, la question se pose du partage de ce qui se passe entre l'acteur qui est au premier plan, le protagoniste, le héros, etc., et ce que j'appelle les figurants. Je me suis, au fond, j'ai fait une chose très très simple. Benjamin dit que la tâche de l'historien, c'est de s'occuper de ceux qui sont derrière, de ceux qui sont sans nom, de ceux qui n'ont éventuellement pas la parole, éventuellement pas de logis d'ailleurs, les sans-abri, les exilés, etc. Eh bien, si vous prenez ça sur le plan de l'esthétique, vous regardez un film, donc vous vous intéressez au statut des figurants. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple en regardant de très près comment Pasolini travaillait.
Oui. Alors je reprends ma question, oui. Parce que là on est dans une approche très définitionnelle, mais concrètement, de qui parlez-vous ?
Concrètement dans ce livre, par exemple, je parle des figurants tels qu'ils sont filmés par Pasolini. Mmh. C'est-à-dire, c'est... Alors, je prends des exemples très précis. Hein. Je prends les 12 apôtres du Vangelo, de l'Évangile selon saint Matthieu. Et j'essaye de voir comment Pasolini a travaillé, très concrètement, et comment il était fondamental pour lui de s'attarder avec tendresse, si vous voulez, avec attention, sur le visage de ceux qui n'ont pas ni de nom, ni de parole à prononcer. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, vous prenez n'importe quel film, je ne sais pas, de Spielberg, les figurants ne servent à rien, les figurants sont juste du décor. Mais ça, c'est une métaphore politique, c'est plus qu'une métaphore d'ailleurs. Alors, on cite Nancy, on peut aussi citer Rancière,
oui,
bien sûr, sur la question du partage, justement, et que la question des figurants devient... donc une question indissolublement politique et esthétique.
Vous citez Rancière qui place ce changement de régime esthétique des arts au XIXe siècle, mais pour vous, en tant que comme historien de l'art, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment donné où le peuple entre, non pas entre dans la représentation, mais en tout cas est présenté d'une manière différente avec des rapports de hiérarchie différents ?
Mince alors, je voulais faire un hommage à Rancière et vous me donnez juste l'occasion de dire là où je ne suis pas d'accord avec lui.
C'est bien le différent.
Non, les choses se passent bien avant. Je pense qu'il y a une chose très étrange dans l'histoire de la philosophie ou dans la philosophie telle qu'on l'enseigne en France, par exemple. C'est qu'on fait Platon, Aristote et puis hop, on est déjà sur Descartes. Donc, pour un historien de l'art, un moment fondamental, c'est l'humanisme du XVe siècle, du XIVe et du XVe siècle. Donc, je pense que les choses, ces histoires de régime là, dont Rancière parle, et moi, qui est ce qui m'intéresse le moins chez lui, qui pourtant m'intéresse considérablement, hein, mais m'intéresse moins parce qu'il ne s'agit pas d'époque. Il est évident... Par exemple, je cite dans ce livre longuement la façon dont Léon Battista Alberti fait un éloge extraordinaire du mendiant, par exemple,
oui.
Qui est en rapport évidemment avec certaines philosophies antiques, la cynique par exemple, mais bon, peu importe. Les choses changent constamment. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'histoire en mettant des barrières entre les période, ça m'intéresse pas trop.
Vous citez Villon aussi. Alors, est-ce que la question, finalement, de la représentation juste, puisque vous faites partie de cette idée du juste, ce n'est pas celle du cadrage ? Est-ce que ce n'est pas la manière de distribuer les rapports à l'intérieur d'une image ?
Voilà. Tout dépend au moins de deux choses, en fait. Et ça se voit aussi bien quand vous regardez un Rembrandt, une série de Rembrandt, une série de Goya, ou une série de photographies, ou un film d'Eisenstein ou de Pasolini. Tout dépend, premièrement, du cadrage. Dans le cas du cinéma, ça dépend de la durée des plans aussi. Hein. Ce qui est très très beau chez Pasolini, c'est comment il reste longtemps sur un plan d'un figurant. Tout dépend du cadrage et du montage. C'est un livre sur le montage.
Merci beaucoup Georges-Didier Huberman. On verra toute la richesse de vos analyses très précises dans Peuples exposés, peuples figurants. C'est le 4e volume de L'œil de l'histoire paru aux éditions de Minuit. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François, merci à votre invité Georges-Didier Huberman et à Nathalie Presse qui est encore avec nous en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la prostitution. Demain, je recevrai le philosophe Ruven Augien pour réfléchir aux enjeux moraux de la marchandisation du corps. D'ici D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, deux façons de le faire. Sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des Nouveaux Chemins, vous y attendez références bibliographiques et musicales et possibilité de télécharger l'émission. Et c'est aussi possible depuis la page des Nouveaux Chemins sur un réseau social dont le nom commence par la lettre F, où toutes les émissions sont mises en ligne quotidiennement. Et enfin, je tiens à remercier Jade Herbulot, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.